Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour, c'est le Zone de Sévac 88.3 FM. On parle d'un mot que tout le monde a sur les lèvres depuis en fait 2 ans, 3 ans, depuis la pandémie, qui est l'inflation. Elle fait grimper nos factures d'épicerie, nos loyers, nos taux d'intérêt et même notre anxiété économique. Mais au-delà du mot, savons-nous vraiment ce qu'elle signifie? Et surtout, quelle différence entre inflation, désinflation, déflation, etc. Alors, c'est 3 termes qui se ressemblent, mais racontent des histoires économiques très différentes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais prendre un peu le temps de décortiquer et donner des exemples concrets ici dans ce sujet économique. Commençons par le plus connu, qui est l'inflation. C'est l'hausse générale et durable des prix, des biens et de services dans une économie. Autrement dit, quand tout coûte un peu plus cher qu'avant, de manière continue. L'inflation avait atteint un pic de 8,1% en juin 2022, son plus haut niveau depuis 40 ans. Depuis, elle a reculé, mais aussi elle reste encore au-dessus de la cible de la Banque du Canada, qui est de 2%. D'après le dernier rapport de Stats Canada, le taux d'inflation annuel s'établit autour de 2,8% à l'automne 2025. Les prix de l'énergie ont largement en fait baissé, mais l'alimentation et le logement continuent d'augmenter, de grimper rapidement. Prenons un exemple concret. Une brique de beurre coûtait 3,99$ en 2020, mais aujourd'hui, elle dépasse souvent les 6%. Le loyer moyen pour 2 pièces à Montréal, pour 3,5 par exemple, a grimpé de 25% en 3 ans, plus même vers les 40% dans ces 3 ans. C'est ça l'inflation. Une érosion silencieuse du pouvoir d'achat, mois après mois. L'inflation peut venir de plusieurs sources. L'inflation par la demande, l'inflation par les coûts, l'inflation importée. Par exemple, l'inflation importée, c'est quand le dollar canadien se déprécie face au dollar américain et les produits importés coûtent plus cher. L'inflation par les coûts, ça veut dire quand les coûts de production augmentent, comme l'énergie, matières premières, les salaires. C'est ce qu'on a vu en 2022 avec la guerre de l'Ukraine et les perturbations logistiques mondiales. Et l'inflation par la demande, ça veut dire quand trop d'argent poursuit trop peu de biens. C'est souvent le cas après des plans de relance économique ou de baisse d'impôts. Et ici, par exemple, on a eu un peu des trois hein, à la fois. Une reprise post-pandémie rapide, des chaînes d'approvisionnement perturbées et une devise affaiblie face au dollar des États-Unis. Maintenant, parlons de la désinflation. Ce mot peut sembler plus technique, mais il désigne quand même simplement un ralentissement du rythme de l'inflation. Les prix continuent à augmenter moins vite. Par exemple, si l'inflation passe à 8%, à 3%, c'est une désinflation. D'accord? Alors, les prix montent toujours, mais le feu s'éteint un peu. C'est ce que vit actuellement le Canada. Grâce aux hausses successives sur le taux directeur de la Banque du Canada, aujourd'hui à 4,5%, la demande ralentit, les prix se stabilisent et l'inflation retombe progressivement. Mais attention, hein, car la désinflation ne veut pas dire que tout redevient moins cher. Cela signifie simplement que la hausse ralentit. Les prix restent élevés, mais augmentent plus doucement. Enfin, il y a la déflation. Vraiment le contraire de l'inflation. D'accord? C'est une baisse généralisée et durable des prix. Et contrairement à ce qu'on pourrait encore croire, c'est vraiment très dangereux la déflation. Pourquoi? Parce que les prix baissent, les consommateurs rapportent leurs achats. Pourquoi, hein? Pourquoi acheter aujourd'hui si ce sera moins cher demain? Les entreprises vendent moins, réduisent leur production, l'ancien, et la spirale économique s'enclenche. C'est ce qu'a vécu en fait le Japon dans les années 1990, une période surnommée la destinée perdue. Les prix stagnaient ou baissaient. L'économie tournait au ralenti et même des taux d'intérêt à zéro ne suffisaient plus à relancer la machine. Et le Canada, heureusement, n'est pas en déflation. Hein? mais certains quand même économistes craignent qu'un resserrement monétaire trop prolongé. Mais bon, ça risque juste une idée parmi d'autres que les économistes ils disent de temps en temps. Alors, face à ces fluctuations, il y a vraiment la Banque du Canada qui joue un rôle clé. Son objectif principal est de maintenir la stabilité, de maintenir ses prix autour d'une inflation cible de 2%. Pour cela, elle ajuste le taux directeur quand l'inflation est très forte et quand l'économie ralentit trop. Alors, quand l'inflation est trop forte, elle augmente les taux pour freiner la demande. Et quand l'économie ralentit trop, alors elle baisse les taux pour stimuler les investissements. Et depuis 2022, la Banque du Canada a mené l'un des cycles de resserrement les plus rapides de son histoire. Et comme résultat, le taux hypothécaire ont explosé. Hein, et les prix à la consommation se sont raréfiés et les ménages endettés ont subi de peines fouettes sur le choc. Et l'inflation n'est pas qu'une affaire macroéconomique. Elle touche les consommateurs, elle touche les gens, différemment selon leur réalité. Les ménages à faible revenu sont les plus vulnérables, bien évidemment. Les jeunes actifs, eux, voient leurs projets immobiliers repoussés indéfiniment. Et les retraités, souvent à revenu fixe, voient la valeur réelle de leur épargne diminuer. Régionalement, certaines provinces s'ouvrent plus que d'autres. Colombie-Britannique ou l'Ontario, la pression immobilière reste forte. L'Alberta, le prix de l'énergie ont apporté un certain répit. Et au Québec, ici, la politique énergétique publique a limité partiellement l'impact sur la facture d'électricité. Alors, à mon avis, à l'épisode inflationniste que traverse le Canada, n'est pas quelque chose de conjoncturel. Il est, au contraire, un signal structurel. Il nous rappelle que l'économie est vulnérable aux chocs mondiaux, qu'ils soient géopolitiques, qu'ils soient climatiques, logistiques, peu importe. Mais il nous rappelle aussi que la stabilité des prix ne suffit pas à garantir la prospérité. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas seulement combien coûtent les choses, mais combien les gens peuvent acheter. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de reconstruire le pouvoir d'achat, pas seulement de freiner la hausse des prix. Et cela passe par une politique cohérente. Des salaires, par exemple, plus en hausse avec la productivité. Un contrôle des marges excessives dans certains secteurs. Je ne sais pas, mais aussi avec des investissements publics dans les logements, alimentation. Whatever. Alors, c'était ça, l'économie en mouvement. L'émission dense, mais c'est quelque chose de nécessaire. Alors, aujourd'hui, on a parcouru quatre grands thèmes qui dessinent le portrait d'un Canada à un tournant économique. D'abord, on a vu ces tensions commerciales avec les États-Unis qui rappellent que la mondialisation reste fragile et que la dépendance envers un seul partenaire, même historique, peut devenir un piège. Puis, on a vu que l'économie canadienne tire la langue, freinée par un manque d'investissement, une productivité stagnante et une confiance, je peux dire, à reconstruire. Et on a aussi parlé du chômage, qui n'est plus seulement une question de chiffres, mais quelque chose de qualité de travail, d'inclusion, de sens de donner un emploi. Et enfin, on a essayé quand même de décortiquer l'inflation, la désinflation, la déflation, ces dynamiques de prix qui touchent directement le quotidien de chaque foyer, de chaque commerce, de chaque citoyen. Ce qu'on prend à travers ces quatre sujets, c'est qu'au fond, le Canada entre dans une phase de redéfinition économique profonde. Le pays doit réinventer, je vois, sa manière de produire, de commercer, de travailler, de protéger le pouvoir d'achat de sa population. L'époque où l'on ne pouvait pas compter en fait sur la croissance automatique est terminée. Hein. Aujourd'hui, tout se joue sur trois leviers. La diversification, l'innovation, la justice. Je m'explique. La diversification pour s'affranchir à la dépense américaine. L'innovation, c'est pour créer de la valeur au lieu d'en subir la perte. Et la justification, la justice économique pour que la prospérité ne soit pas en fait, ne soit pas seulement une statistique, mais une réalité vécue. Mais derrière ces grandes dynamiques économiques, il y a quand même une, quelque chose de plus intime, la confiance. Comme la confiance dans un couple. La confiance des ménages quand ils dépensent. Celle des entreprises quand ils investissent. Celle des gouvernements quand ils planifient à long terme. Sans cette confiance, aucune politique ne tient. Je parle de la politique économique et non pas de l'économie politique. Et c'est peut-être le message le plus important de cette émission. Le Canada ne manque pas de ressources, il manque de vision partagée à nous tous. Une vision qui unit l'innovation, la stabilité, peut-être la solidarité aussi. Alors oui, les défis sont grands, l'inflation, croissance molle, commerce instable, mais l'histoire économique du Canada a toujours été celle d'un pays résilient, capable de rebondir face à l'imprévu. Et si cette période en fait de turbulence n'était pas une crise, mais peut-être pourquoi pas une transition vers une économie plus diversifiée, plus humaine et plus durable. C'est en tout cas la réflexion qu'on voulait ce soir. Merci d'avoir été avec nous dans l'économie en mouvement. Je suis Othman Lamzeri et comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, même fréquence sur la CFA 88.3 pour continuer à penser, à décortiquer, à vulgariser l'économie autrement. À la semaine prochaine. Au revoir.